Ça nous met dans l'ambiance à cette chronique balado pour parler avec Simon Predge, producteur, réalisateur, recherchiste, narrateur, excellent narrateur d'ailleurs, du balado Ars Moriendi. Bonjour, Monsieur Predge, ou Simon.
Ça peut être Simon. Bonjour, merci de me recevoir.
Ça nous fait plaisir. Dites-nous d'abord ce que signifie Ars Moriendi. Pourquoi avoir choisi ce titre?
Oui, c'est sûr qu'un titre en latin, c'est un peu inusité, mais en fait, c'est que, après la peste noire en Europe, la peste noire donc qui a décimé presque 50% de l'Europe, disons que il y a des choses qui ont dû changer. Avant ça, les curés, les prêtres étaient toujours présents pour les derniers sacrements lorsque quelqu'un décédait. Mais après la peste noire, c'était plus possible. Les reins étaient décimés, ça tombait comme des mouches. Donc l'Église s'est revirée de bord, si on veut, a écrit un livre qui s'appelle L'Ars Moriendi, qui veut dire l'art de mourir ou l'art de la mort. Et en fait, c'est un livre très positif, un livre de prière et d'histoire de décès de grands personnages pour apprivoiser notre propre mort et celle de nos proches. T'sais, le message était simple, préparez-vous à mourir. Mais je trouvais qu'il y avait deux sens à ce message-là, puis je trouvais ça intéressant.
Vous dites deux sens?
Ben, préparez-vous à mourir. Ça peut sonner comme une menace, mais ça peut sonner aussi comme un conseil.
Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Alors, l'idée de votre balado vient d'où exactement? Je pense que vous avez publié un livre avant de nous offrir le balado.
Non, c'est l'inverse.
Ah, c'est
moi,
l'inverse?
En fait, j'ai lancé le balado et le livre est sorti basé, dans le fond, inspiré du podcast par la suite.
OK, parce que le balado compte plusieurs saisons. Et puis, est-ce qu'on retrouve le contenu du balado, on le retrouve dans le livre?
Non, c'est une sélection. J'ai sélectionné une partie des histoires. Disons que 60% des histoires du livre, c'est des nouvelles histoires qui n'ont pas été racontées dans le balado. Et la balance, c'est des histoires qui ont déjà été racontées, mais quand même retravaillées là, pour le livre. Mm-hmm. Ouais, dans le fond, moi, ce qui m'a intéressé à ce sujet-là, c'est simplement parce que moi, je viens du cinéma d'horreur. Je suis un fanatique de cinéma d'horreur. J'ai lancé en 2014 un podcast qui s'appelle Les Oubliettes, où je parlais de cinéma. Et à la longue de parler de ces films-là, je me suis beaucoup intéressé aux histoires derrière les films qui avaient inspiré le cinéma d'horreur, puis pour vite découvrir que finalement, la réalité dépasse la fiction. Les vraies histoires sont généralement pires que les films d'horreur qu'on nous offre. C'est de là que ma fascination est née. Puis moi, j'aime ça raconter des histoires. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de lancer Ars Moriendi, pour raconter des affaires criminelles, des histoires de meurtre. Mais c'est ça, avec humanisme. Là, on n'est pas dans le sensationnalisme.
Oui, avec humanisme, j'allais dire ça, c'est vous qui le dites. Mais moi, j'ai écouté l'épisode 39, Gertrude Banisowski.
Pas commencé avec le plus facile, là.
Je m'en suis rendu compte à force d'écoute, là. J'ai dû peser sur stop à quelques reprises.
C'est le plus difficile, là. C'est l'épisode le plus dur à écouter.
Ah oui!
Mais si je peux donner des conseils à de potentiels nouveaux auditeurs, ne pas commencer avec les histoires avec des enfants, parce que forcément, c'est les plus difficiles. C'est les seuls, d'ailleurs, pour lesquels je mets un avertissement au début. Mm-hmm. Mais je pense que c'est des histoires qui méritent d'être racontées, qui sont encore d'actualité, puis que c'est important de ne pas oublier, parce que ces histoires-là ont encore lieu aujourd'hui, puis plus on en sait, plus on peut prévenir.
Oui, bien, sans trop en dire sur ce personnage-là qui est Gertrude, qui a vraiment existé, là, qui a fait subir des sévices impensables à une jeune pensionnaire qui s'appelle Sylvia. Vous faites un parallèle, d'ailleurs, avec Aurore l'enfant martyr, qui a eu aussi des mauvais traitements de la part de sa belle-mère, et tout le monde autour était complice.
Oui, mais... c'est un peu une histoire similaire, mais elle est plus difficile, je trouve, l'histoire de Sylvia.
Oui, je suis d'accord. Mais je me demandais, qu'est-ce que vous cherchez à susciter comme émotion chez l'auditeur et l'auditrice?
Ah, ben ça dépend des histoires, je pense. Ça dépend vraiment des cas. C'est sûr qu'une histoire comme ça, ben c'est de comprendre comment une situation peut mener jusque-là, puis comment la prévenir, parce que bien souvent, les gens réalisent pas autour de toute l'ampleur de ce qui est en train de se passer.
Oui, c'est ça qui fait aussi beaucoup mal.
Oui, exactement, exactement. Mais dans d'autres cas, par exemple, c'est plus une compréhension de l'histoire, l'évolution de notre histoire, de notre justice, pour mieux comprendre, mieux se comprendre soi-même, mais mieux comprendre l'autre aussi. C'est important que quand j'écris mes histoires, que le coupable est vu au même piédestal que la victime. Ce sont tous des humains avant tout, puis ça, c'est important de comprendre ça, parce que un tueur en série, c'est autre chose.
Oui, des fois, on a de la difficulté à trouver l'humanité chez certains personnages qui sont des personnes qui ont déjà existé.
Exact, exact. Comment ça s'appelle? J'ai raconté une histoire par le passé où au final, vu qu'on prend le temps de tout voir l'historique du personnage, d'aller depuis sa naissance jusqu'à son crime, on comprend mieux, sans pardonner, bien entendu, on comprend mieux la souffrance que cette personne-là a subie, puis qui l'a menée jusqu'à l'irréparable. Puis ça, c'est important de le comprendre, parce que ça nous permet aussi de mieux comprendre, je pense, nos propres réactions, puis nos propres impulsivités, tu sais. C'est, tu sais, dans le fond, là, on n'est pas à l'abri d'un geste terrible. Oui, comme je disais, un tueur en série, c'est une chose, mais une chicane de couple qui dégénère, un geste impulsif non contrôlé, puis whoop, là, on a un corps sur les bras, puis on a une situation un peu plus complexe. Là. C'est tous des gestes auxquels l'humain en général n'est pas à l'abri. Puis je pense que c'est important de bien le comprendre. T'sais, apprivoiser la mort, mais sous toutes ses facettes, l'humain est un être complexe, puis c'est pas juste à travers ces belles histoires de courage puis de vainqueur qu'on va bien saisir la profondeur, je pense, de l'humain et du mal humain aussi par la bande.
Et Simon, quand vient le temps de choisir une histoire pour un épisode, là, vous en êtes à presque au-delà d'une quarantaine, là, il y en a qui vont sortir en mars et en avril. Est-ce que vous tracez une limite? Vous dites, moi, non, je n'irai pas jusque-là.
Bien, c'est sûr que les enfants, l'histoire avec les enfants, je pèse le pour et le contre longtemps avant de décider de le faire. Parce que j'ai pas envie de faire du sensationnalisme ou du trash gratuit, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais ce qui m'attire sur une histoire, c'est son message, ce qui peut nous apprendre sur quoi que ce soit, sur nous-mêmes. Puis après ça, les seuls volets avec lesquels j'ai un peu de misère, puis que je trouve difficile à trouver les bons mots pour amener, c'est plus le viol, je pense. Pas que la violence du meurtre n'est pas terrible, mais ce qui me fait mal, c'est parce que quand une personne décède, elle est partie. Là, c'est ses proches. C'est plus l'absence de cette personne-là qui va affecter les proches. Après ça, l'important, c'est de respecter la victime pour pas, tu sais, j'ai pas l'intention d'insulter personne. Mm-hmm. Mais dans un contexte, dans un contexte d'agression, les gens ont survécu bien souvent. Puis j'ai pas envie de mettre une auditrice tout à l'envers, parce que là, je lui ramène des mauvais souvenirs de sa propre agression à cette personne-là. C'est des affaires qu'on n'a pas vraiment envie d'entendre.
Et est-ce que vous laissez le temps passer? Parce que vos histoires, qui se sont passés il y a très, très longtemps, mais est-ce que vous prenez toujours une distance par rapport au temps?
Ça dépend des cas. C'est sûr que moi, j'aime les histoires d'autrefois, parce qu'ils démontrent quelque chose d'important par rapport à l'évolution de la société. Ça, je trouve ça intéressant. Mais c'est sûr que les histoires plus récentes, il faut faire attention, parce qu'il y a des victimes qui sont encore en vie. Il y a les proches de ces gens-là. Des fois, le coupable est encore en vie ou en prison. Ça va dépendre des cas. Ça va dépendre de la situation. Mm-hmm. J'ai fait une histoire, par exemple, avec un dénommé Toby Carrier, qui est relativement récente, qui est au début 2000, j'ai fait affaire avec les parents les parents et victimes, parce que c'est, pour faire une histoire courte, c'est quelqu'un qui était dépressif, qui suicidaire, puis sur un espèce de moment d'impulsivité incontrôlée, a fait une tentative de meurtre sur sa famille. Ses parents ont survécu, pas son frère. Mais moi, au final, j'ai travaillé avec les parents pour élaborer cette histoire-là. Je voulais la respecter parce que, entre autres, ben la personne, sont tous encore en vie, ces gens-là. Puis j'ai pas envie de les brusquer, j'ai pas envie de profiter de la situation. Donc, de travailler avec les parents, ça m'a offert quelque chose de beaucoup plus profond à offrir à l'auditeur.
Ben Simon Prêtre, si on veut découvrir votre univers, j'invite les gens à aller sur arsmoriandipodcast.ca. Et vous lire aussi votre livre. Quel est le titre de votre livre?
La mort en héritage, histoire vraie et insolite de meurtre en famille.
Bien, c'est parfait. On vous réinvitera parce que j'avais d'autres questions à vous poser. Vous êtes quand même un être fascinant. Et il y a beaucoup aussi un aspect théâtral dans vos épisodes, dans votre balado. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup de l'invitation. Au revoir.